France Culture.
18h donc sur France Culture, le journal Lou Momège. Bonsoir Lou.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à toutes et à tous. Deux jours après le cessez-le-feu entré en vigueur à Gaza, le Hamas prêt à libérer les derniers otages et en face, Israël prêt à les accueillir. Nous serons à Tel Aviv dans quelques instants. Un sommet pour la paix à Gaza débute par ailleurs demain en Égypte. Emmanuel Macron doit s'y rendre. Un déplacement qui n'est pas sans conséquence pour la constitution du nouveau gouvernement français. Et à Madagascar, les militaires et même le ministère des forces armées s'unissent au peuple pour contester le gouvernement. Le président dénonce une tentative de prise de pouvoir illégale. Et puis au Kosovo, le pays s'apprête à accueillir les délinquants étrangers du Danemark, une pratique qui semble de plus en plus courante entre les pays de l'Union européenne et les Balkans. Le sommet pour la paix à Gaza se prépare en Égypte, sommet présidé par Donald Trump et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, et auquel assistera également Emmanuel Macron. En attendant, la libération des derniers otages israéliens détenus par le Hamas se précise. Elle s'effectuera demain à l'aube. Bonsoir Valérie Crova.
Bonsoir.
Alors vous êtes en direct de Tel Aviv et le compte à rebours a désormais commencé.
Oui, ce n'est plus qu'une question d'heure. La porte-parole du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou l'affirme. Les 20 derniers otages encore en vie seront libérés demain matin dès les premières heures. Ils seront relâchés ensemble et remis à la Croix-Rouge qui les transportera dans 6 ou 8 véhicules, a-t-elle précisé. Tout est désormais en place pour les accueillir. Le chef d'état-major israélien Eyal Zamir a donné son feu vert pour que les otages soient ensuite transférés sur la base militaire de Reim dans le sud du pays. Les otages seront ensuite emmenés par hélicoptère vers 3 hôpitaux de Tel Aviv et de sa banlieue. Ça, c'est le scénario le plus optimiste, car les autorités israéliennes ont fait savoir qu'elles ne commenceront à libérer les 2000 détenus palestiniens qui doivent être relâchés dans le cadre du plan négocié avec le Hamas qu'à partir du moment où elles auront la certitude que tous les otages ont été rendus, y compris les dépouilles des 28 Israéliens décédés, sauf que certains corps n'auraient pas été localisés par le Hamas. De son côté, le mouvement islamiste continue d'exiger la libération des 7 principaux leaders palestiniens par Israël, dont le plus célèbre d'entre eux, Marwan Barghouti. Or, il ne figure pas sur la liste transmise par l'État hébreu.
Merci Valérie Crova à Tel Aviv pour France Culture. En France, Sébastien Lecornu n'a toujours pas constitué son nouveau gouvernement. Désavoué par les alliés du socle commun et menacé de censure par les partis d'opposition, le Premier ministre devrait annoncer son gouvernement ce soir ou demain. Ajoutons à cela le départ d'Emmanuel Macron au sommet pour la paix à Gaza en Égypte. Alors ce déplacement a-t-il un impact sur la situation? La réponse du constitutionnaliste Jean-Philippe de Rosier.
Oui, ça la complique, car si rien n'interdit formellement que le président de la République soit sur un territoire étranger lors de la nomination du gouvernement, ce serait néanmoins une première. On sait qu'il n'y a pas une compétence liée au lieu, c'est-à-dire que le président de la République est le seul compétent pour nommer sur proposition du Premier ministre. Il faut donc que cette proposition puisse se faire. On imagine qu'elle se fait habituellement dans le bureau à l'Élysée, mais elle pourrait se faire pourquoi pas en visio ou par téléphone. Ce serait assez original, nous vivons une époque originale, ce serait ajouter de l'originalité. Il me semble néanmoins, eu égard au contexte politique, préférable que le président de la République soit sur le territoire national, et non seulement sur le territoire national, mais aussi à Paris, à l'Élysée, lorsque la nomination du gouvernement sera annoncée, ce qui augure d'une nomination soit dans les toutes prochaines minutes ou heures, soit à son retour du Caire.
Le constitutionnaliste Jean-Philippe de Rosier qui répondait à Olivier Vogel. Les Républicains ont prévenu hier, ils soutiendront le gouvernement mais n'y participeront pas. Preuve en est avec Yannick Neuder, l'ancien ministre de la Santé, dit avoir été approché par Sébastien Lecornu pour intégrer son gouvernement, mais il a refusé. À l'inverse, Annie Genevard, ministre démissionnaire de l'Agriculture et LR, compte bien rester au gouvernement malgré les consignes de son parti. Le Premier ministre a lui prévu, à défaut de se tourner vers les ténors républicains, de se tourner éventuellement vers les jeunes recrues du parti. Madagascar en proie à une tentative de coup d'État. Cet après-midi, le ministre des Forces armées a reconnu le chef d'État élu par une unité militaire rebelle. Tout a commencé il y a une quinzaine de jours avec des manifestations contre le gouvernement. Mais hier, un contingent militaire a décidé de rejoindre la contestation et annonce aujourd'hui avoir pris le contrôle de l'armée malgache. Sarah Tetto, les manifestations ont continué aujourd'hui dans la capitale.
Ce midi, sur la place du 13 mai, la foule se presse autour des blindés qui font leur entrée et se met à scander des merci CAPSAT. Les CAPSAT, c'est le nom de l'unité de l'armée de terre qui a appelé hier les forces de sécurité à refuser de répondre aux ordres de tirer sur les manifestants. Aujourd'hui, ils sont vus comme les héros de la patrie. Puis, sur l'estrade, montent à leur côté des représentants de l'opposition, députés, conseillers municipaux et même l'ancien chef d'État, Marc Ravalmanan, sorti à la suite d'un coup d'État. Dans la foule, on crie, on est heureux, mais comme ce membre de la Gen Z, on est un peu déconcerté aussi.
Un peu frustré et un peu déçu de ce qui se passe actuellement. J'ai l'impression que les jeunes ont fait tout le travail et maintenant, c'est les moins jeunes qui sont là en train de faire leur show comme d'habitude.
Le colonel Miguel Ranjanirin, le nouvel homme fort du CAPSAT qui a conduit la foule sur la place du 13 mai, repart acclamé. Questionné, il explique.
Moi, je ne pense pas qu'il y avait coup d'État, non. La situation, je peux appeler ça un chaos, mais ce n'est pas un chaos provoqué par l'armée, c'est un chaos provoqué par le dirigeant. Pour l'instant, je suis un simple officier, c'est tout pour moi.
Dans l'après-midi, une cérémonie officielle s'est tenue à l'état-major des armées. Le ministre de la Défense a reconnu le nouveau chef d'état-major choisi par les militaires du CAPSAT. Une nouvelle étape de franchie donc, et de gagner pour les militaires.
Face à ces tensions croissantes dans le pays, Air France a suspendu ses vols entre Paris et Madagascar. L'Afghanistan et le Pakistan se livrent une guerre des chiffres après les violents affrontements qui ont secoué la frontière la nuit dernière. L'armée pakistanaise affirme avoir tué 200 Afghans et perdu 23 soldats. De son côté, Kaboul dit en avoir tué 58 et déplore la mort de seulement 9 de ses talibans. L'Afghanistan justifie ses attaques de la nuit dernière comme des représailles et accuse le Pakistan de frappes aériennes et d'avoir violé son territoire à plusieurs reprises ces derniers jours. C'est un projet de contrôle migratoire qui inquiète les ONG et il ne vient pas de l'extrême droite. Au Danemark, les sociaux-démocrates au pouvoir ont décidé de durcir leur politique avant d'expulser les délinquants étrangers vers leur pays d'origine. Copenhague veut les envoyer dans les prisons du Kosovo. Les deux pays ont signé un accord de 10 ans, Louis Seyer, vous l'avez constaté, dans le sud du Kosovo.
Perché sur une colline au-dessus d'un village et de sa mosquée, la prison de Djilan et ses murs en briques encore neufs devraient bientôt accueillir des détenus condamnés à 2000 km du Kosovo. Ismaël Dibrani est le directeur des prisons du petit pays des Balkans.
D'après l'accord que nous avons signé, 300 criminels venus du Danemark seront transférés dans cette prison. Les lois danoises y seront appliquées avec un gouverneur danois, mais bien sûr le staff sera kosovar. Ces transferts de prisonniers ne concerneront pas les condamnés pour extrémisme religieux ou pour terrorisme.
Après avoir effectué leur peine au Kosovo, les prisonniers seront expulsés vers leur pays d'origine. Coût de cette délocalisation pour Copenhague, 200 millions d'euros. Dans l'un des pays les plus pauvres d'Europe, dont l'indépendance est toujours contestée par le voisin serbe, beaucoup de Kosovars approuvent le projet, comme Arben Recepi, 52 ans.
200 millions d'euros, ce sont des revenus bienvenus. Et puis, ces accords diplomatiques sont importants. Ils aident à la reconnaissance du Kosovo.
Alors que les six pays des Balkans occidentaux sont tenus à la porte de l'Union européenne depuis 20 ans, ce genre de projet controversé se multiplie dans la région. La militante des droits humains, Donika Emini, dénonce une dérive honteuse.
Ces accords d'externalisation transforment les Balkans en dépotoirs des pays riches qui font ici ce qu'ils ne peuvent pas faire chez eux. C'est vraiment très problématique et hypocrite, notamment de la part d'un pays comme le Danemark.
Plusieurs pays confrontés à la surpopulation carcérale comme la Belgique ou la France auraient demandé à pouvoir eux aussi louer des places de prison au Kosovo.
Reportage de Louis Seyer, correspondant de France Culture au Kosovo. Un mot du temps demain, il sera ensoleillé sur la côte ouest. Quelques nuages dans le reste de l'Hexagone qui finiront par se dissiper en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans l'après-midi, les températures, elles iront de 10 à 20 degrés le matin et jusqu'à 24 dans l'après-midi. C'est la fin de ce journal. Merci à Caroline Beneteau à la réalisation et à Mineta Diawara à la technique.